Et ça, c'est une bonne surprise.
C'est parti pour la 41e émission de Du poil sous les bras. On entend parfois dire « il n'y a plus de saison, ma bonne dame », mais si, regardez, écoutez plutôt, c'est la 5e saison de Du poil sous les bras. Rien n'arrête un poil qui pousse, épilation et autres injonctions n'y feront rien, le poil reprend du poil de la bête, nos corps sont plus touffus que jamais, le mien en tout cas, et nos poils à gratter chatouillent la normativité has-been de notre société. Et désormais, je commencerai par demander à mon invité, qui sont les gens comme toi ?
Les gens comme moi, c'est des gens qui sont souvent dans une position de malaise par rapport à leurs opinions politiques, qui sont souvent marqués par une forme de culpabilité, parce que venant en fait d'un monde plutôt privilégié, mais se préoccupant de causes sociales, qui ont cette espèce de rapport un peu moral, un peu étrange à ces questions-là, qui ont l'air de privilégier en fait leur... souvent leur bien-être personnel par rapport aux causes pour lesquelles ils s'engagent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me met mal à l'aise. C'est, je pense que c'est pas du tout une question de qui on est, c'est une question de ce pourquoi on se bat, et que cette vision en fait un peu auto-culpabilisante des questions sociales, moi je la rejette en fait. Je pense que la culpabilité, c'est pas un sentiment politique utile, et qu'on devrait plutôt se tourner vers des sentiments comme la colère, le sentiment d'injustice, la solidarité, et qui eux sont beaucoup plus constructifs. Et c'est vrai que je parle beaucoup des réactionnaires, c'est la vision qu'ils essayent de nous renvoyer de nous-mêmes, des gens qui sont dans la repentance, alors qu'en fait non, on est dans la solidarité.
Alors, vous l'avez reconnu ? Eh non, pas forcément, mais vous avez peut-être reconnu un peu de vous dans cette description. Bon, je ne vais pas vous faire mariner plus longtemps, parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire avec mon invité qui est...
Bonjour, je m'appelle Alex Mahoudo, je suis la personne qui a écrit le livre La Panic Woke, Anatomie d'une offensive réactionnaire. J'anime aussi depuis presque 10 ans maintenant un compte Twitter qui s'appelle Pan of Strocknis, sur lequel je parle de sciences sociales, de jeux vidéo, de politique, de un petit peu de quotidien, et j'aime bien les tartes aux pommes.
Encore un point commun entre Alex et moi. J'adore les tartes aux pommes et j'adore regarder danser les gens. J'adore aussi apporter des précisions, par exemple vous redonner en articulant bien le nom du conte Pandov Strocknis. Voilà, j'espère que vous avez bien retenu. Et j'adore aussi tout faire pour éviter de devenir réactionnaire. Et oui, les réacs ne sont pas woke du tout, et être woke, c'est plutôt une bonne chose, moi j'ai l'impression. Non pas être une fausse woke à la Jean-Michel Apathy. Non, woke de corps et d'esprit, woke en conscience. Mais qu'est-ce donc que le woke ? Si je n'ai pas encore tout compris à ce que c'est qu'être woke, je sais par contre que tout ce que redoutent les anti-woke, eh bien moi ça m'enchanterait. Quand Pascal Bruckner cauchemarde par exemple, il a peur qu'advienne une société avec, je le cite, « tout en bas les parias, la lie de la terre, le mâle blanc hétérosexuel occidental, au sommet la femme noire ou arabe ou indienne, lesbienne ou queer, nouvelle reine de l'univers ». Les cauchemars des anti-woke sont parmi mes plus belles utopies. Cette phrase de Bruckner, je l'ai trouvée dans l'ouvrage d'Alex Mahoudo. Ah oui, je ne vais pas acheter un bouquin de Bruckner quand même. Alex Mahoudo est sociologue et a écrit « La Panic Woke, anatomie d'une offensive réactionnaire » aux éditions textuelles. Un livre qui aide à y voir plus clair dans le flou sciemment entretenu par les réactionnaires à propos d'un concept qu'ils n'arrivent pas à saisir, du coup ils en ont peur, et du coup c'est la Panic Woke chez les réacs. Dans Du poil sous les bras, par contre, pas de panique. On est relax, décontracté du slip, le monde s'effondre, mais nous, on bâtit, on trace doucement, mais sûrement, un petit chemin vers plus de justice sociale.
La petite blanc, dans du poil, sous les bras.
Bon, alors, parlons beaucoup. Et parlons bien, c'est quoi le wokisme ?
Bonne question, j'ai pas de réponse à vrai dire. Moi, je sais pas. Ce que c'est que le wokisme. Je pense que, moi je sais pas ce que c'est que le wokisme, mais je pense que les gens qui parlent de wokisme savent pas non plus ce que c'est que le wokisme, parce que c'est une catégorie un peu fourre-tout, c'est un espèce de gros sac dans lequel on met plein de trucs qu'on aime pas, alors des trucs qu'on aime pas quand on est une certaine catégorie de personnes, plutôt des gens de droite, plutôt des gens conservateurs, plutôt des gens qui sont pas fans de féminisme, ou en tout cas pas fans de féminisme revendicatif, qui sont pas fans d'antiracisme, ou en tout cas pas fans d'un antiracisme qui reviendrait à faire plus que de dire en gros que les personnes noires et arabes existent, et encore, qui sont pas fans de toutes ces choses-là, qui sont pas non plus fans de lutte sociale en général, hein. Et il y a eu une mode, en fait, ça a été une mode de parler de ce truc-là, comme il y a eu d'autres modes avant. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que au cours du XXe siècle, le mot woke en anglais, dans une forme d'anglais pratiquée par les Africains-Américains, qu'on appelle l'AAVE, ça veut dire African American Vernacular English, ce mot qui veut dire donc éveillé, attentif, conscientisé, il était utilisé ponctuellement par certaines personnes. C'était pas un slogan, c'était plus un mot qui revenait occasionnellement. Et puis, faut dire que la métaphore de l'éveil, c'est quelque chose qui parle en fait à tous les mouvements sociaux. Moi, j'aime bien faire la blague en disant j'attends de voir un mouvement social qui s'appellerait le mouvement des abrutis qui sont endormis et qui voient rien et qui ont rien compris à rien, quoi. Ça n'existe pas vraiment. Et donc ce mot revenait régulièrement, et puis il a été popularisé avec le mouvement Black Lives Matter, notamment parce qu'il y a eu des chansons qui s'appelaient Stay Woke, qui ont commencé à sortir, le slogan a commencé à être un peu utilisé, et puis très très vite en fait il a été saisi, d'abord sur les réseaux sociaux, pour se moquer d'un truc qui est une sorte de lessivage social qui est fait par des entreprises, pour se donner l'air en fait d'être favorable à des grandes causes sociales alors qu'elles sont capitalistes et participant au système comme toutes les autres. Alors une pub comme ça qui a beaucoup marqué à l'époque, c'était une publicité Pepsi, où on voyait une manif. Alors c'était une manif telle que Pepsi s'imagine que les manifs ont lieu, c'est-à-dire des gens avec des panneaux sur lesquels c'était marqué « Vive l'amour » et « Discutons ensemble » et des slogans complètement vides en fait de sens. Et puis les policiers s'opposaient à ça, et donc une célébrité qui était dans cette manif, elle offrait un Pepsi à tout le monde, et donc tout le monde devenait ami et partageait un Pepsi, et tout le monde faisait la paix autour de ce truc-là. La seule différence entre ces valeurs-là et ce qu'on a appelé le wokisme, c'est que le wokisme a été utilisé par les gens qui le dénoncent, non pas pour dénoncer la publicité en elle-même, et l'hypocrisie en fait de ces entreprises, parce que je pense qu'on peut être complètement d'accord sur le fait de dire... Pepsi, en fait, elle en a strictement rien à foutre du racisme ou des manifestations en général. Tout ça est très, 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 très hypocrite et très, très néfaste, mais pour dénoncer les valeurs en tant que telles. C'est-à-dire de dire, Pepsi vous dit que le racisme, c'est mal, donc les gens qui disent que le racisme, c'est mal sont des hypocrites. Or, c'est complètement n'importe quoi comme raisonnement. Et puis après avoir eu cette dénonciation sur les réseaux sociaux pour se moquer comme ça de ces grandes entreprises, ça a commencé à être vraiment théorisé par des gens, cette fois-ci qui étaient des gens vraiment de droite, pour dire plusieurs choses. Alors très rapidement, en fait, ces choses, moi j'en identifie dans le bouquin 3, qui sont d'abord le fait de dire qu'il y aurait un complot des universités, en fait, que les universités seraient des espaces... où se produirait comme ça une espèce de contre-culture qui viserait à provoquer une révolution, notamment aux États-Unis, mais en gros en Occident en général, dans ce qu'on appelle l'Occident, dans les sociétés libérales, et que serait en fait le travail à long terme d'intellectuels marxistes qui auraient vu que le communisme marche pas, et qui essayeraient en fait de rediriger les gens vers des identités éclatées pour les mobiliser, pour les radicaliser. Alors ça, c'est quelque chose que les conservateurs et les réactionnaires disent depuis très 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 longtemps, j'en parle dans le livre, on trouve en fait des gens qui disaient déjà ça, déjà dans les années 60 et avant. La deuxième chose qui a été dite sur le wokisme, qui est la deuxième grande théorie des gens qui parlent de wokisme, c'est que le wokisme, c'est en fait une forme de religion, quelque chose qui remplacerait en fait le christianisme, notamment dans des sociétés sécularisées. Alors des gens comme par exemple Mathieu Bock-Côté adorent dire ça, mais d'un autre côté ils adorent dire ça de tout. Tout ce qu'ils n'aiment pas, en fait, est une religion. La seule chose, apparemment, dans leur discours qui n'est pas une religion, c'est la religion, qui est, au contraire, une structure sociale importante pour construire la civilisation, etc. Et puis la troisième chose qui a été dite, et qui vient aussi des États-Unis, parce qu'il faut dire que ces trois façons de voir les choses ont été importées en France depuis les États-Unis, c'est que le wokisme serait l'effet, en fait, d'une génération de malades mentaux, qui sont en gros une jeunesse à laquelle on n'a jamais dit non, des enfants pourri gâtés, qui ensuite se sont retrouvés à la fac où on leur a appris à toujours avoir tout ce qu'ils veulent, et qui du coup maintenant se retrouvent dans le monde réel, entre guillemets, où ils sont trop sensibles et où ils exigent qu'on cède à leur moindre caprice. Alors, c'est très compliqué de dire ça, parce que cette génération, quand on regarde aux États-Unis, c'est la première génération en fait, qui s'attend généralement à être moins riche que leurs parents. C'est la première génération qui a connu son entrée dans l'emploi dans le contexte de la grande crise financière de 2008, donc qui a été une crise en fait qui a impacté durablement les travailleurs. Hein. On sait que par exemple vos perspectives de carrière à long terme, selon que vous êtes entré juste avant ou juste après cette crise, elles sont largement différentes. C'est les gens qui ont connu la guerre en Irak, c'est les gens qui ont connu qui ont grandi dans l'ombre du 11 septembre, c'est des gens qui ont connu maintenant la pandémie de Covid, etc. Et donc ce qui est très étrange et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on voit des gens, moi je cite volontiers par exemple le livre de Brice Couturier, qui est un ex-68ard et un baby boomer, qui a écrit un bouquin qui s'appelle OK Millennial, dans lequel il fustige cette génération qui aurait tout eu sur un plateau d'argent, tout en étant lui-même issu en fait, de la génération qui a grandi dans le contexte des Trente Glorieuses, qui n'a pas été confrontée au moment de son entrée dans l'emploi au problème du chômage structurel de masse, qui a tiré en fait, les marrons du feu de cette situation. Et donc, c'est ces trois théories-là que moi je déconstruis et que je critique.
À retenir, donc, pour comprendre le wokisme, le rôle des US, tout est parti des campus nord-américains, et puis des gens dépassés intellectuellement comme Brice Couturier importent ces concepts pour créer des polémiques absurdes qui les font exister médiatiquement. Ils diffusent les théories, les bras bien en éventail pour faire peur. Nos malheurs seraient causés par une jeunesse déprimée et des idéologies sectaires autres que le catholicisme. C'est bancal comme raisonnement, certes, mais c'est à ça qu'on reconnaît les pourfendeurs du wokisme. C'est leur côté punk. Ils contestent l'ordre social, mais pas n'importe lequel. L'ordre social fantasmé dans leur pire cauchemar. La différence entre Brice Couturier et moi, si vous voulez, c'est que moi, mes cauchemars, j'en parle à ma psy et pas sur France Culture. Et je ne les laisse pas gouverner ma vie, je me soigne.
Souvent, une critique qu'on fait aux gens qui ont un discours comme le mien, c'est de dire, de toute façon, vous pensez que toutes les personnes qui ne pensent pas comme vous sont des réactionnaires. C'est pas vrai du tout. Je pense pas que toutes les personnes qui pensent pas comme moi sont réactionnaires. Je pense qu'il y a plein de trucs en fait qui sont montés en épingle comme étant des signes du wokisme sur lesquels la personne standard peut rouler des yeux, peut se dire que c'est intriguant ou voire même s'inquiéter. Je vais prendre un exemple qui a beaucoup fait ruer dans les brancards. Il y a eu il y a quelque temps en fait une compagnie de téléphonie, Apple je crois, qui a inclus en fait dans son set d'emojis, donc qui sont les petites images qu'on a sur nos téléphones, etc., un emoji qui représente un homme enceint. Il s'avère qu'il y a des hommes enceints, c'est les hommes transgenres, donc qui sont des personnes qui sont devenues des hommes, donc qui ont gardé pour un certain nombre d'entre eux leur utérus et qui sont capables d'avoir des enfants, donc les hommes enceints ça existe, mais on n'en connaît pas tous et toutes dans notre vie quotidienne, donc ça peut surprendre. En revanche, ce qui est, intrigant, c'est la façon dont des intellectuels conservateurs ou réactionnaires vont s'obséder là-dessus, parce que dans la vie quotidienne des gens, l'existence de cet emoji, il n'a aucune importance, la plupart des gens s'en foutent, éventuellement ils vont l'utiliser pour dire « ah voilà, j'ai fait un gros dîner, donc mettre un type avec un gros ventre, ça peut illustrer ça », mais bon, globalement personne n'a de problème avec ça, mais on va avoir une caste en fait d'intellectuels qui vont agiter ces trucs-là pour radicaliser les gens. Donc j'ai l'habitude de dire « toutes les personnes qui s'inquiètent du wokisme ne sont pas réactionnaires. Par contre, tous les réactionnaires veulent que vous vous inquiétiez du wokisme, veulent que vous vous obsédiez sur des trucs qui sont généralement sans importance ou avec une importance relativement moindre pour vous détacher des gens qui dénoncent, qui sont des gens qui veulent quoi ? Globalement, qui sont des gens qui sont engagés dans des luttes pour l'émancipation et pour la liberté collective. C'est-à-dire les gens que je citais tout à l'heure, les syndicalistes, les féministes, les militants et militantes LGBT, les antiracistes, etc. Évidemment, ces gens peuvent faire des trucs qui sont baroques ou qui sont étranges. Ils peuvent avoir des discours, des langages, des termes qu'on comprend pas ou faire des trucs bizarres. Mais globalement, si je prends une question, j'en sais rien, qui peut concerner tout un chacun en ce moment aux États-Unis, à cause du renversement de l'arrêt Roe versus Wade, qui constitutionnalisait le droit à un accès à l'avortement, en ce moment aux États-Unis, il y a des États entiers où la population n'a plus le droit d'avorter. Qui sont les gens qui se battent pour la liberté d'avorter ? Parce que l'avortement, c'est une liberté. Eh ben, les gens qui se battent pour ce truc-là, c'est les fameux wokistes. Et les gens qui se battent contre, c'est les personnes qui dénoncent ce wokisme. Et là-dessus, on retrouve en fait facilement nos marques. C'est-à-dire, qui sont les gens qui sont dénoncés au nom de ce truc-là ? Ben, globalement, en général, c'est les gens qui essayent de faire en sorte que collectivement, notre vie soit meilleure. Qui sont les gens qui les dénoncent ? Généralement, c'est les gens qui essayent de faire en sorte soit que notre vie reste la même, soit qu'elle s'empire.
Ce qu'explique Alex Mahoudeau est très clair. Si vous ne comprenez pas bien qui sont les wokistes, vous pouvez par contre très bien voir qui sont les anti-woke. Le monde qu'ils défendent, c'est uniquement le leur. Et tant pis pour tous les autres qui en sont exclus ou qui en souffrent. Cerise sur le gâteau, les réacs sont persuadés d'être les victimes des wokistes. Le discours réactionnaire est un discours de victimisation. Alex Mahoudeau en parle dans son livre de cette inversion des réalités. Par exemple, le discours des réacs sera de dire « c'est pas l'extrême droite raciste le problème, c'est la sensibilité exacerbée des antiracistes qui voient le mal partout ». Et tout ça se décline à l'infini. Par exemple, c'est pas le viol le problème, c'est la taille des jupes.
Les réactionnaires adorent se victimiser. Ça date pas d'hier, hein, c'est un élément central de leur idéologie qu'on a tendance à pas nommer en fait. Mais moi je cite un gars qui s'appelle Corey Robin qui a écrit un bouquin sur l'histoire de la pensée réactionnaire et dans lequel il dit en fait la raison pour laquelle on voit pas que les réactionnaires se victimisent, c'est qu'ils se victimisent pas au nom de quelque chose qu'ils ont pas et qu'ils voudraient. Ils se victimisent au nom de quelque chose qu'ils auraient perdu. En gros, ils font tout le temps référence à un âge d'or dans lequel les choses étaient justes et maintenant on vivrait dans une sorte de décadence petit à petit. Pascal Bruckner, grosso modo, un bouquin sur deux qu'il écrit quand il fait des essais, c'est pour dire telle catégorie de personnes se victimisent, ils sont, par exemple, le sanglot de l'homme blanc, c'est le tiers-mondisme, l'antiracisme, tout ça, c'est du ressentiment contre l'Europe et contre l'homme blanc et contre la civilisation occidentale, etc. Et puis ensuite, un autre bouquin sur deux, par exemple, Un coupable presque parfait, c'est pour dire, moi je suis une victime, les hommes blancs de plus de 50 ans, hétérosexuels, cisgenres, bourgeois, c'est eux qui sont maintenant en bas de la hiérarchie sociale, en bas de la pyramide sociale, et puis en haut de la pyramide sociale, c'est des lesbiennes transgenres handicapées, noires, qui ont grandi dans le sud global, quoi, c'est-à-dire dans ce qu'on appelait avant le tiers-monde. Bon, il faut pas avoir vécu longtemps dans le monde réel pour se rendre compte que c'est des conneries. En réalité, la hiérarchie sociale, ça reste globalement la même. Maintenant, il y a cette passion de la victimisation à droite. Il suffit de voir ce qui se passe autour des personnes qui sont un peu les héros de la cause du wokisme, de l'anti-wokisme, pour voir. Par exemple, il y a un gars qui maintenant fait un peu son grand comeback, qui est un psychologue canadien qui s'appelle Jordan Peterson. Lui, c'est un anti-féministe, un anti-personne trans, un anti-tout ce que tu veux. Ce gars-là, il s'est mis en scène au début, en 2016-2017, comme étant victime de la pensée unique et du politiquement correct, qu'il était sur le point d'être censuré, qu'il était sur le point d'aller en prison, etc. Bon, tout ça, c'était faux. Mais par contre, maintenant, il fait quoi ? Maintenant qu'il est devenu populaire et célèbre, il va pour expliquer que les gens qui pensent pas comme lui, il faut leur interdire de parler. Ils sont hors du débat public, d'après lui. Il le disait récemment, par exemple, sur la question des personnes transgenres, encore parce que c'est son grand, c'est sa grande obsession, ce truc-là. Et il disait, les gens qui pensent qu'il faut laisser les gens transitionner, il faut faire en sorte qu'ils soient expurgés du débat public pour qu'il ne reste plus que des gens comme moi, quoi. Donc il y a cette hypocrisie en fait énorme qui est, ces gens vont beaucoup parler de liberté d'expression, mais quand ils parlent de liberté d'expression, c'est toujours la leur. C'est toujours eux. C'est eux, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Toi, tu n'as pas le droit de les critiquer. Et si tu les critiques, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Ils sont en fait pour leur liberté à eux de dire ce qu'ils veulent. Et contre ta liberté à toi de les remettre en cause.
Heureusement que les bons réacs veillent au grain face au front idéologique de déviants dangereux pour la société que seraient les wokistes. Mais pourquoi les réacs paniquent-ils autant ? Comment expliquer qu'ils se scandalisent en permanence à partir de rien ou de si peu ? Seraient-ils bien moins rationnels qu'ils veulent le faire croire ? La rationalité serait-elle woke ? En tout cas, les réacs s'arrangent avec la réalité. Ils n'ont pas peur de la distordre à l'infini et de cheminer intellectuellement dans une toute autre dimension.
«
En fait, il y a une analyse que je trouve assez intéressante, là encore, qui vient des États-Unis. Hein, je suis désolé, c'est le pays dans lequel ce truc-là s'est développé. Donc, c'est là que les gens ont le plus pensé, en fait, ce phénomène, même si on a des intellectuels tout à fait fascinants et fascinantes en France, mais qui est la notion de conservatisme postmoderne. Alors, dit comme ça, ça fait un peu peur. En réalité, l'idée, elle est assez simple. Conservatisme, c'est une position politique. C'est grosso modo ce qu'on appellerait la droite. Postmoderne, en quoi est-ce qu'il est postmoderne ? Le postmodernisme, ça veut dire plein de trucs, mais globalement, ça désigne dans ce contexte-là bien précis un rapport très relativiste à la vérité. C'est-à-dire la vérité, c'est ce qui m'arrange à un moment donné, dans leur vision à eux. Et là, il y a vraiment cette idée, c'est-à-dire ça n'a pas d'importance qu'on dise A ou B, l'important c'est qu'on gagne contre les gens qu'on n'aime pas. Je vais prendre un exemple. On va avoir beaucoup de discussions sur la langue, sur le fait de dire, voilà, par exemple, là, l'écriture inclusive, c'est un danger parce que ça consiste à faire des néologismes, à créer une nouvelle langue qui serait marquée idéologiquement et qui serait du coup très dangereuse. Ce serait comme dans George Orwell, 1984. Ok. Et du coup, il y a plein de mots comme ça qui sont dénoncés. On a des glossaires qui ont été faits occasionnellement pour dire « Ah là là, regardez, ils utilisent des mots bizarres, c'est pas compréhensible. » Et puis, par contre, le fait d'inventer des mots comme par exemple, ben, typiquement « wokiste », là par contre, ça pose pas de problème. On a le droit de créer des mots dans ce contexte-là. On a le droit de décider que ce terme qui veut rien dire pour personne, en fait, tout le monde doit l'utiliser. Et surtout pas se poser de questions parce que ben, sinon, c'est de la censure. Alors maintenant, par rapport à la science, il y a ce même rapport en réalité. Hein. Aux États-Unis, il y a eu plusieurs stratégies là-dessus. La première, c'est un rejet pur et dur de la science. Ça commence par les sciences sociales. Les sciences sociales sont fausses, tout ça, c'est qu'une question de point de vue, on doit relativiser tout ça. Alors, il faut voir que ce discours-là, il date encore de très longtemps. Je cite un truc qui s'appelle l'Academic Bill of Rights, l'ABOR, qui est une proposition de loi en fait, qui a été produite par un think tank aux États-Unis, dans lequel c'est marqué, en fait, les sciences sociales, c'est juste des questions de point de vue, donc il faut enseigner tout et son contraire. Si vous enseignez un truc en classe, par exemple, mettons que vous enseignez que les personnes riches ont une espérance de vie plus longue que les personnes pauvres, ce qui est quelque chose qu'on sait, en fait, qui est quelque chose qu'on peut documenter, on peut mener des enquêtes, regarder le monde réel, faire des statistiques et se rendre compte que, effectivement, c'est vrai, et en fait, selon cette loi, on aurait dû enseigner aussi l'inverse parce que sinon, ça ne permet pas une discussion. Il y a cette idée que l'université, ça ne sert pas à apprendre des trucs, ça ne sert pas à apprendre de la méthode scientifique ou ça ne sert pas à apprendre des connaissances, ça sert à discuter de ses idées. Ils aiment bien mettre en avant le fait qu'on débat, de tout et de n'importe quoi et surtout, on débat sans aller se baser sur des choses qui soient vérifiables. Il n'y a pas d'idée qui soit plus vraie qu'une autre. Alors que pourtant, ils accusent la gauche de relativisme souvent. Mais ce truc-là, il est étendu aux États-Unis et aux autres formes de sciences. Longtemps, la droite aux États-Unis a poussé pour que si on enseigne la théorie de l'évolution, c'est-à-dire la science darwinienne, on doit aussi enseigner le créationnisme. Comme ça, chacun peut se faire ensuite son idée. Alors ce truc-là, il n'a pas été importé en France sur le coup de la théorie de l'évolution, parce que ça ne passerait pas. On n'est pas une société qui est aussi violemment recristianisée que les États-Unis ont pu l'être. Après, tout est possible, il ne faut pas non plus se leurrer, tout peut être importé si on le veut. Ça l'a un peu été sur la question du climat, avec le fait de dire, au fond, est-ce qu'on sait vraiment, est-ce qu'il y a vraiment raison de s'inquiéter, etc. Mais ça l'a beaucoup été sur la question des sciences sociales, sur le fait de dire, au fond, est-ce que le racisme, ça existe vraiment? Est-ce qu'on sait si une personne est victime de discrimination ou pas? On ne peut pas vraiment le savoir, alors qu'en fait, c'est pas juste. Les sciences sociales, c'est pas juste des gens dans leur bureau qui se grattent la tête en se disant « Tiens, j'imagine que les gens sont victimes de discrimination. On va voir le monde réel et on fait des enquêtes. » Par ailleurs, cet anti-intellectualisme, en fait, parce que c'est réellement ça, on n'aime pas les mots compliqués. On va critiquer les universitaires parce qu'ils utilisent des mots qui sont pas faciles à comprendre. On va critiquer les universités en tant que telles parce que c'est des lieux de savoir, mais qui sont soi-disant biaisés. Alors, jamais les intellectuels en question ne vont prouver ces biais, ils vont juste les supposer, dire « Ah, de toute façon, c'est probablement biaisé, donc ça doit être faux. » Et puis, on va critiquer des connaissances qui sont fondées sur la base du fait qu'on peut imaginer que ce soit faux, ou du fait qu'on ne sait pas, ou du fait que machin. Alors que non, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une communauté scientifique qui regarde un petit peu ce qui se dit et qui sait séparer le bon grain de l'ivraie. C'est une stratégie assez ancienne. Je dis n'importe quoi, on me dit que je dis n'importe quoi. Comme ça, je peux aller à la télé ou à la radio dire « Oh mon Dieu, regardez, j'ai été censuré par les bien-pensants. » Comme on ne donne pas la parole aux bien-pensants en question, qu'on ne les écoute pas, et qu'il faut dire ce qui est, parler de méthodologie scientifique, c'est quand même aride à la radio ou à la téloche, on se fait vite quand même, on se casse un petit peu les pieds, et du coup le message passe. Et cette victimisation-là, elle marche très bien sur cette espèce de fond d'anti-intellectualisme, parce qu'il faut dire ce qui est, en réalité on a affaire à des gens qui n'aiment pas avoir un rapport scientifique ou rationnel au monde, même s'ils aiment bien dire le contraire en revanche.
Et pas facile dans les médias de donner de la place à une parole complexe, de prendre le temps d'expliquer. La panique, c'est toujours plus vendeur que la tranquillité.
En fait, il y a un peu deux erreurs qu'on a tendance à faire quand on pense aux médias. La première erreur, c'est de penser que les médias se contentent de façon neutre d'aller chercher les informations importantes, de les hiérarchiser en fonction de ce qui est objectivement important, et puis de les présenter au public. Et qu'il n'y a pas de décision qui est prise, que le public consomme ce qui est intéressant, ne consomme pas ce qui n'est pas intéressant, et que c'est tout. C'est pas vrai, on le voit par exemple, je cite une enquête qui s'appelle La banlieue du 20h, où c'est un collègue qui a travaillé, il me semble que c'était à France 2, mais je ne veux pas m'avancer, sur la façon dont on construit le JT, et qui montre que en fait, l'information c'est beaucoup des histoires stéréotypées. Pourquoi est-ce que c'est des histoires stéréotypées ? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, et donc n'ayant pas beaucoup de temps pour en parler, il faut dire aux gens une histoire qui leur parle déjà. Si vous voulez comprendre un truc aussi bête, aussi simple que un micro-conflit de voisinage autour, j'en sais rien, d'un droit de passage autour d'un chemin communal, le truc qu'on a autour de nous. Si vous vous mettez à vraiment travailler sur ça, à vraiment regarder tous les tenants et aboutissants pour produire une idée complète de la situation, on peut aller à l'infini. C'est des enjeux qui touchent énormément de choses qui sont extrêmement complexes. On vit dans une société qui est très complexe. Complexe, pas dans le sens où c'est compliqué, mais complexe dans le sens où il y a beaucoup de parties prenantes. Et démêler, décortiquer tout ça, ça prend beaucoup de temps. Si vous produisez un JT tous les soirs à 20h qui doit durer 25 minutes et que vous avez 37 secondes pour traiter d'un sujet, vous n'avez pas le temps de présenter ça. Il faut présenter aux gens une histoire qu'ils comprennent. L'effet divers, ça marche très bien là-dessus. Ça fait sensation. Il y a un gentil, un méchant, une situation choquante qui sort de l'ordinaire et on peut le présenter. Il y a une morale à la fin. Le gentil professeur a été censuré par les méchants étudiants. La gentille mère de famille a été agressée par un méchant immigré. Ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas non plus dire complètement que c'est faux. C'est une façon de présenter, de faire ce qu'on appelle en sciences sociales cadrer une histoire. Ensuite, l'autre erreur qu'on a tendance à faire, c'est de croire que tout ça, c'est une grande manipulation. Qu'il y a des gens qui sont aux manettes avec presque une théorie du complot, qu'il y a des grands méchants qui décident de tout ce qu'on va penser, de tout ce qu'on va voir, de tout ce qu'on va entendre, de tout ce qui va nous intéresser et dissimuler le reste. C'est faux aussi, en réalité. Il y a des forces qui pèsent, bien sûr, sur la fabrique de l'information, mais ça ne veut pas dire que tout est entièrement coordonné par un manipulateur ou un grand marionnettiste malveillant qui aurait toutes les cartes en main. Il y a du social, en fait, il y a de la dynamique, il y a de l'interaction, il y a des conflits. Il suffit de voir ce qui s'est passé quand la chaîne CNews a été créée. On a eu des journalistes qui ont démissionné en masse, un JT qui a tenu par des bouts de ficelle pendant un certain temps, et puis qui a commencé à se reconstruire et à gagner une certaine popularité en produisant un certain type d'information. Et ce type d'information, c'est aussi ça qui compte, et c'est ça qui compte, à mon avis, dans la panique morale. C'est pour ça que je préfère parler de panique morale, parce qu'une panique morale, c'est un phénomène médiatique dans lequel on crée du scandale autour d'un malaise social en désignant des méchants précis, en montant en épingle des anecdotes ou des affaires pour créer une forme d'emballement. Mais cet emballement, il n'est pas créé de façon malveillante ou volontaire. C'est-à-dire, c'est un journaliste qui a entendu dire qu'il y avait une manif qui avait mal tourné dans telle fac. Et comme on a un discours qui est prêt à l'emploi pour dire, justement, on a toutes ces histoires de cancel culture, on a des intellectuels aussi qui s'en préoccupent, qui écrivent des bouquins là-dessus. Moi, c'est quelque chose que je rappelle à chaque fois. Je peux faire un tout petit retour sur mon expérience perso. Moi, on m'a contacté pour me dire, il se passe telle affaire, ce qui s'est arrivé quand Pape Ndiaye est arrivé au ministère de l'Éducation. Vous avez écrit un bouquin sur la question, est-ce que vous voulez venir nous en parler ? Parce que y a un pool en fait de gens qui écrivent des bouquins, qui ont des trucs à dire, et ça coûte moins cher en fait d'aller chercher ces gens que d'envoyer des journalistes enquêter pendant 6 mois sur un sujet. Il faut dire ce qui est. Donc on a des gens, Pascal Bruckner, Brice Couturier, Mathieu Bock-Côté, Alain Finkielkraut et compagnie, qui ont toujours plus ou moins un bouquin à vendre et qui du coup sont contents de venir sur un plateau de télé pour présenter leurs analyses qui sont toujours plus ou moins les mêmes et qui remplissent en fait une grille de programme. Donc il y a rien de malveillant, il y a pas de complot là-dedans. Ça veut pas dire qu'il y a pas des acteurs qui sont activistes. Bien sûr, il y en a. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens ? Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont un rapport moral en fait à la politique, qui se disent, qui n'aiment pas se sentir mal à l'aise en fait, qui n'aiment pas qu'on leur dise des trucs qui les font se sentir mal. Ça fait se sentir mal quand on dit que les gens qui nous protègent ou qui sont censés nous protéger, la police, il y a des gens qui le harcèlent sans raison, autre que leur couleur de peau. On préfère se dire que ces gens l'ont mérité. Quand on nous apprend qu'une collègue féminine, une collègue femme, a dans sa carrière aura un salaire moins important que le nôtre, pour des raisons qui sont ben, parce qu'elle est née comme ça, c'est pas juste, ça fait se sentir mal. On préfère se dire que non, il doit y avoir quelque chose qui est mérité là-dedans. Quand on nous dit que des personnes LGBT n'ont pas le droit, des personnes homo n'ont pas le droit de se marier pour pas d'autre raison que le mariage, c'est un truc qui vient de l'Église au départ et l'Église a décidé que les homosexuels, c'était moins bien que les hétérosexuels, bah on se dit, soit on se sent super mal à l'aise, soit on se sent vraiment en colère de se dire qu'on vit dans un monde qui est vraiment véritablement injuste, ce qui est le cas, ou alors on essaye de mettre la tête dans le sable. Et c'est une bonne manière de mettre la tête dans le sable, tirer sur le messager, en fait. Et c'est vraiment ça. Et moi, je pense que ça va pas plus loin que ça. La raison pour laquelle les anti-wokistes sont aussi obsédés par l'idée de la repentance, c'est qu'ils avouent leur propre rapport à la question. Ils se sentent mal à l'aise. Cette idée de repentance, elle vient de personnes qui sont blanches en Europe, qui ont pensé vivre dans un monde juste.